L'ESG, ça correspond à la mise en adéquation entre ce que nous sommes, nous, en tant qu'êtres humains, Bertrand, moi et l'équipe, nos collaborateurs, et ce que l'on fait. Donc, c'est mettre du sens au cœur de l'action de conseil.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast de La Machine à Sens. Alors, lancer son podcast, c'est toujours un moment un peu particulier. Un mélange d'excitation, un peu de fierté et une bonne dose d'angoisse. Mais c'est aussi un moment de remerciement. Alors, un grand merci à tous les contributeurs de la campagne de crowdfunding. Vous avez rendu ce lancement possible. Sans plus tarder, passons à ce premier épisode. Sur la machine à sens, nous allons nous plonger dans l'univers des entreprises à mission. Ces entreprises qui osent se transformer et apporter leur contribution à la résolution d'enjeux sociaux et environnementaux. Je vous proposerai des échanges avec des dirigeants, des entrepreneurs, des managers de mission qui vous expliqueront pourquoi et comment ils sont passés entreprises à mission, mais également avec des auteurs et des experts qui viendront vous apporter leur éclairage sur un sujet de société. Je m'appelle Vivien Pertuzot et j'ai le plaisir d'animer ce podcast. Pour ce tout premier épisode, je vous présente Bertrand Charles et Fabien Hospital, les deux dirigeants de Consort Intelligence. Fondé en 2011, installé aujourd'hui à Paris et à Lyon, Consort Intelligence navigue dans les eaux parfois un peu troubles du renseignement d'affaires. Donc, quand j'ai appris en juin 2021 qu'ils étaient devenus entreprises à mission, forcément, ça a un peu titillé ma curiosité. Disons que c'est pas vraiment le premier secteur auquel on pense pour parler de ces sujets. Et pourtant, dans cet épisode, vous découvrirez leur métier d'enquêteur sans concession, comment ils se sont progressivement positionnés sur les sujets ESG, comment ils adoptent une posture presque militante pour faire parler des gens qui généralement ne veulent pas trop se parler, à commencer par les grandes entreprises et les ONG. On a également parlé d'interdépendance, de sculpture sociale, oui, d'indignation et de fil à plomb, oui, vous verrez. L'échange est vraiment passionnant. Je le recommande tout particulièrement à des entreprises de service qui parfois peuvent s'interroger sur la manière dont elles pourraient se réinventer quand elles ne sont souvent qu'un outil au service des entreprises, pour reprendre le terme de Bertrand et de Fabien. N'hésitez pas d'ailleurs à les contacter sur LinkedIn pour leur faire part de vos retours et leur poser des questions. Ils sont passionnants et passionnés. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Bertrand, bonjour Fabien.
Bonjour Vivien.
Bonjour. Donc on est ici aujourd'hui chez vous dans vos locaux pour le premier épisode du podcast de La Machine à Sens. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour parler un petit peu justement de la manière dont Consort Intelligence est passé entreprise à mission. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est pas une évidence pour une entreprise comme la vôtre d'aller dans cette démarche-là, mais on y reviendra. Peut-être un petit peu de présentation de qui vous êtes pour commencer. Bertrand Charles, tu as créé Consort en 2011. Tu es un ancien journaliste d'investigation, mais t'es pas tombé dedans en étant tout petit, puisque t'as fait tes premiers pas en école d'art, mais t'as rapidement bifurqué après sur le journalisme d'investigation, notamment pour Intelligence Online, mais pas que, avant de créer Consort Intelligence, que tu co-diriges aujourd'hui avec Fabien. T'es intervenu dans différentes écoles, différents masters, et tu continues aujourd'hui avec tes premières amours de l'art en intervenant dans l'atelier d'immersion en milieu naturel et d'expérience connective radicale, je pense avoir rien oublié, à la Haute École des Arts du Rhin. Et également, hier, donc on enregistre ça le 24 février, tu as publié un ouvrage qui s'appelle Les chemins de la décivilisation, pratiquer l'immersion profonde en nature pour renouer avec la Terre aux éditions Payot. On y reviendra un peu plus tard dans le podcast. Fabien Hospital, donc tu as rejoint Consort en 2015. Donc il y a une histoire d'amitié, dont on reviendra peut-être dessus entre vous deux. Donc tu baignes dans les sujets de renseignement, d'intelligence économique, de géopolitique depuis tes études notamment. Tu as fait tes premières armes en analyse au sein de la DGSE, avant de plonger complètement dans le privé et l'intelligence économique, et toujours avec une certaine appétence pour les sujets de compliance, j'ai remarqué dans ta bio. Donc tu as rejoint Bertrand en 2015 comme associé chez Consort. Et tu partages ton temps entre la Bretagne et Paris pour te ressourcer, comme tu disais, avant qu'on enregistre. Est-ce que j'ai oublié quelque chose sur vous deux?
Bah, c'est un bon résumé.
Non, je pense pas. On a beaucoup de choses à se dire à partir de maintenant, mais non.
Alors pour commencer sur Consort et l'activité, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de repartir d'un post LinkedIn qui a été publié sur donc, la page de Consort lié au scandale Orpea. Vous écriviez en recourant, je cite, en recourant à nos investigations ESG sans concession, basées sur des interviews de sources humaines et des vérifications in situ, nos clients font le choix de la réalité mesurée sur le terrain. Alors ça me semble être une bonne étude de cas fictive de ce que pour expliquer votre métier, ou en tout cas ce que vous pouvez faire pour d'autres clients pour éviter que des entreprises comme Orpea puissent bénéficier d'une très bonne notation ESG. On se rend compte derrière qu'en fait la réalité est un peu moins glamour. Alors, je ne sais pas qui souhaite expliquer pour commencer.
Alors je veux bien rebondir sur ce post LinkedIn concernant Orpea et concernant finalement le défaut des agences de notation ESG qui attribuaient une excellente note à Orpea. Et puis, il a fallu le travail d'un journaliste d'investigation qui a mené son enquête avec ses moyens du journaliste d'investigation, c'est-à-dire l'enquête de terrain. Il va vérifier sur le terrain pour prendre la mesure de la réalité, de la vraie réalité, pas celle dont on rencontre dans des bases de données. On est en permanence, nous, confrontés à ce genre de situation où, pour prendre une décision, certains acteurs peuvent être tentés de s'en remettre à des outils qui sont pour le coup, comment dire, reconnus, la donnée, la base de données qui est certifiée. Et puis il y a ceux qui vont prendre le parti d'aller beaucoup plus loin et d'avoir le courage d'affronter la réalité, parce qu'on parle bien de ça finalement. Soit on s'en remet à des outils d'appréciation de la réalité à distance, soit on a le courage de mesurer la réalité sur le terrain. Un journaliste d'investigation, c'est ce qu'il fait. Et nous, dans notre quotidien, c'est ce qu'on fait pour nos clients. Alors, c'est des clients qui ont décidé aussi d'investir, parce que ça ne se fait pas gratuitement. Ils prennent sur eux, ils prennent le temps aussi, parce que ça prend du temps. On ne peut pas prendre une décision en menant une investigation comme ça en claquant des doigts. Il faut un certain temps pour que l'enquête puisse se réaliser. Le journaliste qui enquêtait sur Orpea l'a fait aussi en prenant un certain temps. Donc, c'est un cas d'école, je dirais, de la façon dont les décideurs, aujourd'hui, peuvent se doter d'outils de décision qui sont vraiment ancré dans la réalité, et c'est accessible, on n'a rien inventé, c'est des choses qui existent depuis toujours, le fait de mener des investigations. On est bien dans l'investigation non officielle, ce n'est pas un audit, ce n'est pas, on ne va pas prévenir les gens qu'on va venir observer sur le terrain ce qui se passe, puisque c'est la meilleure façon de ne rien voir. On mène l'enquête avec nos propres moyens, sans pour autant sortir du cadre légal, puisqu'on peut tout à fait mener des investigations in situ, mener des entretiens, observer, en restant dans un cadre totalement légal. Et pour le coup, je pense que c'est aussi une excellente façon pour les décideurs qui sont confrontés à des décisions d'investissement, de partenariat, de se positionner sur des projets, de prendre deux choses en compte, à la fois les risques qu'ils prennent. Est-ce que je prends des risques à investir dans cette entreprise, à nouer un partenariat avec cet acteur, à investiguer ce projet dans un pays complexe et obscur? Est-ce que je prends des risques? Classiquement, les acteurs de l'intelligence économique sont là pour mesurer les risques que les opérateurs économiques prennent, mais surtout, et c'est notre partie, c'est de leur faire prendre la mesure des impacts qu'ils auront. Puisque quand on prend une décision, on a un impact. Il n'y a pas que ce qui atteint l'entreprise qui compte, il y a la façon dont, finalement, les décisions vont impacter la Terre et les hommes. On appelle ça environnement, on appelle ça société dans l'ESG, c'est la Terre et c'est les hommes. Avec tout ce qui comporte. Donc, faire prendre conscience des interdépendances à nos clients et de leur, finalement, leur implications dans les décisions qu'ils vont prendre, c'est tout ce qu'on peut apporter aujourd'hui, et c'est le grand changement dans notre positionnement, le fait d'assumer, qu'on permet à nos clients de prendre la mesure des risques et des impacts.
Et sur en termes d'activité, parce que c'est vrai que c'est un milieu qui est, pour le commun des mortels, assez obscur, volontairement, j'ai envie de dire, parce qu'on parle de renseignement d'affaires ou d'intelligence économique. Concrètement, un client vient vous voir, une grande entreprise, un fonds d'investissement ou autre, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Comment ça se passe après? Parce que ça prend du temps, tu disais, Bertrand. C'est un investissement, mais je ne sais pas, Fabien, si tu veux...
Comment ça se passe? C'est une bonne question. Les clients arrivent avec des expressions de besoins protéiformes. Ils sont toujours face à une inconnue. Quand ils nous sollicitent, c'est qu'ils ne savent pas. Et ce qui est intéressant, c'est quand ils nous sollicitent, c'est qu'ils savent qu'ils ne savent pas. Parce que beaucoup sont convaincus de savoir, alors qu'en fait, ils ne savent pas. Donc on va saluer les clients qui nous font confiance en faisant cet effort de dire « Ok, on ne sait pas, on a besoin d'y voir plus clair ». Après, des exemples concrets, il y en a plein, ils sont très emblématiques. On peut très bien parler d'une entreprise qui est face à une crise avec plein d'acteurs, et en fait, il ne sait pas, il ne comprend pas. On parle d'interdépendance. Nous, on peut agir pour éclairer ce sujet. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de comprendre le mieux possible ses enjeux. C'est quoi son problème? C'est quoi ses enjeux? Et là-dessus, nous, on va lui faire des propositions en concertation avec lui pour éclairer la situation et lui amener des éléments qui vont l'aider à décider. Après, il y a des questions vastes, hein, et peut-être qu'on pourra après parler des différents types de produits ou plutôt de solutions qu'on est capable de fournir. Mais ça peut être faire la lumière sur un acteur en particulier. Je veux m'associer avec telle personne en Indonésie. Avant de le faire, je veux savoir qui il est. Et je veux savoir sa réputation perçue, son intégrité. Est-ce que je vais m'associer avec quelqu'un de chouette, quelqu'un qui respecte les lois, ou est-ce que je vais m'associer à un escroc avec qui je vais dealer? Donc en fait, on est toujours sur le principe d'apporter de la connaissance, de collecter de l'information pour générer de la connaissance qui vont être utiles à décider pour nos clients.
Il y a un terme que vous avez utilisé tous les deux déjà et que j'avais déjà pas mal identifié sur votre site internet, dans vos communications, c'est l'interdépendance.
Oui.
Concrètement, pour vous, pourquoi ce terme est aussi fort? J'ai même pas encore posé la question, ouais. Mais pourquoi ce terme est-il aussi fort pour vous?
Alors, c'est intéressant que tu le soulignes. C'est vrai que depuis le début, Consort est né sur le fait de s'attacher à comprendre les acteurs autour des situations. On a ce prisme sur les acteurs depuis le départ. Consort, pour refaire une petite parenthèse sur l'étymologie, Consort signifie ceux dont le destin est lié. Ceux qui ont finalement été liés à un moment donné par le hasard, par le même sort. Partagent le même sort, le même destin. Dans notre parcours d'entreprise, petit à petit, on a pris conscience que finalement, de plus en plus, on pouvait agir avec nos clients sur la société. Et agir sur la société, sur ce tissu social qui est fait d'acteurs dont les destins sont liés. Puisque quand je prends une décision, elle impacte ceux qui me sont liés. Cette notion d'interdépendance s'est un petit peu imposée. Là où, il y a quelques temps, on mettait peut-être encore assez régulièrement le terme de réseau, on cartographiait les réseaux, on prenait la mesure des relations. Là, on a franchi un pas en mettant le terme interdépendance, puisque dans le diptyque dont j'ai parlé tout à l'heure de risque et d'impact, quand je prends une décision, quand je m'investis quelque part et quand j'investis quelque part, je prends des risques et j'ai des impacts. Il y a une question d'interdépendance et d'interrelation. Quand je fais quelque chose, j'agis à la fois sur la société, sur ma propre société. Donc, le fait d'utiliser le terme d'interdépendance, c'est aussi le fait d'assumer qu'aujourd'hui, avec Consort Intelligence, on n'a pas une société, on fait société. C'est un cran de plus. C'est pas de l'activisme politique. On n'est pas en train de s'engager en politique, mais on a conscience, finalement, qu'une entreprise qui travaille sur le politique, sur la façon dont les acteurs sont liés, a une responsabilité aussi. Donc, on veut aussi faire prendre conscience à nos clients de leurs interdépendances. Donc, c'est vrai que c'est un mot-clé qui revient immédiatement dans nos discussions. Bruno Latour le dit très bien. L'interdépendance, c'est aussi ce qui permet de mesurer la localité. On est dans des univers mondialisés, internationaux. On parle aussi beaucoup de consommer local, de revenir à du local pour lui. Et local, c'est ce qui nous est lié. Ce n'est pas uniquement ce qui est territorialement lié à ma présence géographique limitée. Je suis lié à ces industries au Bangladesh ou en Chine par le jean que je porte aujourd'hui, si je décide d'être lié à ces acteurs. Donc en fait, ce tissu d'interdépendance se met en œuvre en permanence. Et c'est pour nous extrêmement important de pouvoir permettre à nos clients d'en prendre la mesure, de prendre conscience. Et à partir du moment où ils ont pris conscience, ils peuvent décider de manière responsable.
Non, c'est vrai, et c'est dans l'ADN de Consort depuis le début. Tu parlais de réseau, c'est vrai qu'on adopte aujourd'hui un autre mot, mais on a toujours eu cette conscience-là des liens et des impacts des actions, de nos actions, des impacts enfin, et des actions de nos clients. Ce qui est intéressant aujourd'hui chez Consort, c'est qu'on essaie de les faire bouger et de leur faire prendre conscience de ces interdépendances. On les met face à des réalités, on a des clients avec lesquels on a des relations de confiance vraiment très fortes, et on est capable de mettre le doigt sur leurs vrais problèmes et sur les choses, sur leurs angles morts. On peut parler des droits humains, parce que tout le monde parle de décarbonisation, c'est très bien, mais l'esclavage moderne, on n'en parle pas beaucoup. Ce qui se passe dans des mines à l'autre bout du monde, on n'en parle pas beaucoup. Du travail des enfants, on n'en parle pas beaucoup. Qu'est-ce qui se passe sur ces sujets? Et nous, sur ces sujets-là, on a envie de s'en saisir et on peut apporter des réponses pour que, enfin, ils le voient, ils le disent, qu'ils l'observent et qu'ils prennent des mesures. Donc c'est agir sur ces interdépendances par l'action, par l'investigation et par la connaissance.
Et ça démarre avec nos propres interdépendances, nos propres liens, relations avec notre équipe, avec nos partenaires, avec nos clients. Ce tissu d'interdépendance, il commence là. Et donc nous-mêmes, on injecte dans nos relations avec notre écosystème. Tu as découvert notre bureau qui est aussi un écosystème, qui est un endroit où on partage le destin avec beaucoup d'autres, nos partenaires qui font des métiers complémentaires aux nôtres. On a notre équipe, nos collaborateurs, qui ont décidé de consacrer leur vie et leur temps professionnel à notre entreprise. On a une responsabilité vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de leur vie, de leur confort, de leur qualité de vie. Donc tout ça se joue d'abord là. Et je pense qu'on peut considérer qu'on peut agir sur la société à partir de l'endroit où on vit et agit, et ça commence ici, chez nous. Donc on fait société au sein de Conscience Intelligence, et ça commence là. Chacun peut se saisir de sa responsabilité à sa propre échelle. Il ne faut pas attendre que ça vienne de la Commission européenne, de dirigeants politiques. Ils sont pétris d'inertie, c'est des acteurs qui ont du mal à faire bouger les lignes. On peut se saisir chacun de la capacité qu'on a à faire bouger les lignes. Et Joseph Beuys, pour renouer avec l'art, un artiste allemand des années 70-80, avait formulé le terme de sculpture sociale. Qu'est-ce que c'est que la sculpture sociale? C'est quand chaque acteur prend conscience de sa liberté pour sculpter le tissu social dans lequel il a envie de vivre. Je pense qu'on est quelque part des acteurs de cette sculpture sociale. On peut donner forme à une société à laquelle on a envie de donner forme, en se saisissant de notre responsabilité, et on l'a dans les mains, dans nos mains, aujourd'hui, maintenant.
Et par rapport à ces sujets de, justement, l'entreprise doit agir à une responsabilité, vous, en tant que société, vous sentez aussi, sans faire de la politique, en tout cas, vous êtes des acteurs de la cité, si on peut dire. Aujourd'hui, vous mettez énormément l'accent dans vos offres sur l'ESG. Est-ce que ça a toujours été le cas?
Alors, non, ça n'a pas toujours été le cas. Conscience Intelligence, c'est un organisme vivant. Donc, c'est un organisme qui grandit, qui évolue. Et il a eu plusieurs vies. Et il en aura peut-être demain d'autres, qu'on ignore encore. Pour être assez clair, quand Bertrand a fondé Conscience Intelligence, il l'a fondé sur le décryptage d'écosystèmes d'environnement complexe. C'était ses logiques de réseau, ses cartographies, comprendre les acteurs, leurs enjeux, qui veut quoi. Et quand moi je suis arrivé, on a ajouté une couche. Tout à l'heure, tu parlais de compliance. Alors, c'est pas que je suis un dingue de compliance. Certes, j'ai pu l'enseigner aussi un peu à la fac, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est l'éthique. Ce qui est intéressant dans la compliance, c'est le mot corruption, qui est pour nous l'un des piliers des désordres environnementaux, sociétaux auxquels on assiste. Quand on n'a pas de corruption, il y a moins de désordre. Donc, moi, j'ai ramené cette dimension-là. Après, on est arrivé sur un marché, donc on est un acteur économique, et on a développé une offre de due diligence plus ou moins approfondie pour travailler sur ces aspects de compliance. Ça a duré quelques années, et puis... on y reviendra sans doute après, il y a eu ce mouvement vers l'ESG qui n'est pas du tout imprimé selon un rythme de marché, j'ai envie de dire, ou une attente de profit ou une mode. C'est quelque chose avec Bertrand qui nous titille depuis des années. On avait monté une boîte qui était en avance de phase, on a eu des initiatives très en avance. On pourrait parler des étiquettes intelligentes dans le domaine de la fringue, c'est des projets il y a longtemps et qui était déjà là. Et aujourd'hui, l'ESG, ça correspond à la mise en adéquation entre ce que nous sommes, nous, en tant qu'êtres humains, Bertrand, moi et l'équipe, nos collaborateurs, et ce que l'on fait. Donc, c'est mettre du sens au cœur de l'action de consort sans renier nos compétences et nos premiers amours, c'est-à-dire qu'on fait toujours du décryptage, on fait toujours de la due deal, on fait de la due deal aujourd'hui plus large, pas uniquement sur les volets corruption, mais on peut parler des atteintes aux droits humains, des atteintes à l'environnement, prendre des photos dans des chantiers en Afrique du traitement des déchets, obtenir des documents sur des expropriations malhonnêtes ou forcées. C'est là-dessus qu'on travaille en tant qu'enquêteur, comme des journalistes, sauf que l'on ne rend pas public nos enquêtes.
Et c'est aussi ESG, le terme consacré dans le marché. C'est un terme anglo-saxon, a priori. On a besoin de mettre face d'un marché des termes précis dans lesquels nos clients se reconnaissent. Donc, l'approche environnementale, l'approche sociétale, l'approche sur la gouvernance, qui sont la version déployée de ces initiales ESG, elle nous permet finalement d'aligner nos intentions, travailler sur les atteintes à l'environnement, travailler sur les atteintes à l'humain, et travailler sur les problématiques de gouvernance, avec un terme consacré qui existe déjà. C'est toujours plus facile d'être audible quand on s'inscrit dans des termes consacrés et qui sont déjà reconnus par le marché. Cela dit, c'est la façon la plus efficace qu'on a trouvé, nous, quelque part, d'embarquer nos clients sur leur relation à la terre et aux hommes. Donc là, simplement les problématiques de gouvernance, qui sont des problématiques qu'on observe, comme le disait Fabien, depuis longtemps, sur les sujets de corruption, de conflit d'intérêts et de blanchiment. C'est plutôt les sujets qui font peur, c'est plutôt les sujets sur lesquels nos clients risquent en termes juridiques, c'est plutôt des sujets sur lesquels ils risquent des amendes, ils prennent des risques de réputation, et ils découvrent petit à petit qu'ils prennent aussi des risques à ne pas prendre en compte les sujets liés au E de l'environnement et au S du social et sociétal. Donc on arrive à des approches holistiques où en fait on se rend compte qu'on ne peut plus prendre un sujet par un prisme réductionniste, on ne peut pas regarder les choses avec une loupe, avec une lorgnette, il faut prendre les choses dans leur globalité. Donc l'ESG nous offre un terrain parfait pour prendre les sujets dans leur globalité. Et donc, par contre, il faut l'habiter, ce terme ESG, et la façon dont il est habité aujourd'hui, on le voit avec, on a parlé en introduction du scandale Orpea et des agences de notation, de la réduction du champ des possibles dans l'ESG, nous on essaye de faire en sorte que l'ESG puisse être totalement habité de manière profonde. C'est-à-dire l'investigation permet d'habiter l'ESG de manière profonde. D'aller au fond des choses.
C'est aussi peut-être la traduction d'une certaine indignation, notre indignation face au désordre. Comment est-ce qu'on peut l'exprimer en étant dans la construction ? Il y a des ONG, et d'ailleurs des ONG sont abritées dans nos locaux, hein, qui vont lutter avec leurs moyens, il y en a qui balancent des zodiacs sur des tankers, et c'est très bien. On ne va pas critiquer ces actions-là, bien au contraire. Nous, on a pris le parti d'essayer de monter dans la cabine du commandant de bord et de lui donner des outils pour changer son cap. Donc, on n'est pas dans la critique spécifique, on est dans l'action, on constate les désordres, ils nous indignent et on met en place des moyens pour aider les acteurs économiques à changer de voie. Parce que c'est vital, et c'est eux qui détiennent ce pouvoir-là, les grandes entreprises, les grands fonds d'investissement. Certains nous font confiance hein, pour changer leur méthode d'investissement vers plus de responsabilité, donc ça porte ses fruits. Mais c'est un combat, c'est quelque chose qui nous anime, c'est d'être cette intentionnalité. On a des enfants, on voit le monde bouger. Aujourd'hui, c'est une journée particulière, en dehors du fait que ce soit le lendemain du lancement du livre de Bertrand, c'est quand même l'invasion de l'Ukraine. Donc on voit que le monde est loin d'être stable, et le monde fait peur, et il y a cette actualité qui nous focalise, mais il y a tout le reste. Et ça nous indigne, et donc on a envie de se bouger, et d'emmener les autres avec nous dans cet espoir qu'on a encore de faire changer les choses pour un monde un peu meilleur.
Et concrètement, ça signifie quoi de mettre de l'ESG dans vos offres ? Qu'est-ce qui a changé ? Je sais pas, est-ce qu'il y a une offre où, on va dire, en 2022, elle est ce qu'elle est, et en 2019, elle était différente, et vous lui avez donné, alors pas une couleur ESG, mais concrètement, ça signifie qu'est-ce qui est différent ?
Une couleur marche pas trop mal.
Non.
Ouais. Alors, juste pour la métaphore, la couleur. Après, je vais un client nous a posé cette même question. Pourquoi rajouter à vos cordes des trucs qui vont un peu brouiller les pistes ? Vous, c'est la corruption, en fait. Hein ? La corruption, c'est une couleur sur le spectre des possibles. Et avec l'ESG, on couvre, comme je disais tout à l'heure, tout le spectre. Pourquoi regarder que le rouge, alors qu'il y a une gamme infinie de possibles de couleurs à observer pour prendre la mesure de la réalité ?
Il faut quand même se rendre compte que de nombreux acteurs économiques sont assujettis à une norme, enfin des réglementations, anti-blanchiment avec le code monétaire et financier, les normes américaines. Et depuis 2017, en France, la loi Sapin 2, hein, donc ce n'est plus uniquement les dispositions du code pénal en termes de corruption, mais les entreprises ont des obligations. Des obligations avec une agence de contrôle, l'AFA, qui va venir vérifier. Donc en fait, les entreprises, elles n'ont pas eu le choix. c'était pas forcément leur intention de lutter contre la corruption, parce que quand certaines font leur beurre dans des contrats en Irak ou en Afrique avec des intermédiaires véreux, et c'est comme ça qu'elles ont développé leur business, ça a mis un coup d'arrêt à ces pratiques, et c'est une très bonne chose, c'est là où le législateur a vraiment apporté quelque chose. Après, on pourra en parler longtemps, parce qu'on peut le mettre dans le cadre d'une guerre commerciale avec le FCPA, etc. On ne va pas entrer dans ce débat. Mais on a réussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est à travailler sur la corruption, pas uniquement sur un marché normé, basé sur de la coercition, mais en faisant ça avec nos clients, on les a amenés sur certaines missions à regarder plus loin. Par exemple, une grosse enquête qu'on a faite sur des problématiques de corruption au Sénégal, mais qui impliquait différents autres États, acteurs économiques d'autres États, pour un établissement financier. On a travaillé sur des problématiques environnementales, d'érosion des sols, de transformation du travail des femmes, d'esclavagisme. On a travaillé, on les a amenés petit à petit sur ces sujets-là. Donc, on peut parler de spectre de couleurs, mais c'est extrêmement lié. Ne travailler que sur la corruption, c'est se limiter à cocher des cases légales. Je suis une boîte clean parce que je respecte les dispositifs légaux en matière de blanchiment ou de corruption. Mais en fait, mon impact, il va bien au-delà de ça. Tu parlais des jeans tout à l'heure, des rejets. Et aujourd'hui, on n'a pas de coercition dans ce domaine-là. Ça arrive, les plans de vigilance arrivent, l'Union européenne se mobilise. Mais en fait, aujourd'hui, on fait encore un peu ce qu'on veut. Quand on parle des travailleurs nomades, c'est des sujets qui sont hyper intéressants. Quand il y a des gens qui, à 5 heures du matin, vont laver les bureaux à la Défense, les boîtes qu'embauchent ces gens, elles ne sont pas spécifiquement contrôlées par les gens qui les embauchent, par les grosses entreprises. Qu'est-ce qui se passe? Comment vivent ces gens? Ça, c'est pas, il n'y a pas de coercition, à part bien sûr le respect du droit du travail. Et en fait, il faut que nous, on amène nos clients à prendre tout ça à bras-le-corps. En dehors de votre obligation légale, vous avez une responsabilité sociale. Et en tant qu'acteur économique puissant, c'est vous qui devez faire changer les choses. Donc on le dit, on le martèle, et c'est un combat. Hein.
Et la responsabilité se joue souvent, tu viens de le souligner, dans les angles morts. L'entreprise qui missionne une société de nettoyage à 5 heures du mat, elle ne voit pas ces gens-là. C'est un angle mort pour elle. Elle ne les voit pas. Et ce que je ne vois pas n'existe pas. Donc je ne le prends pas en compte. Nous, on est là pour ramener la lumière sur les angles morts. Et que leur faire prendre en compte de ce qu'ils ne voient pas. Parce qu'ils ne voulaient pas le voir, parce qu'ils ne pouvaient pas le voir, ou parce qu'on leur a demandé de ne pas regarder. Donc, nous, on va aussi amener nos clients à regarder ce qu'ils n'ont pas envie de regarder. On va leur mettre une idée dessus, pour leur bien, parce qu'en fait, s'ils ne le regardent pas, d'autres vont le faire. Leur PA n'a pas regardé, ou a caché un certain nombre de choses. Un journaliste est venu éclairer les angles morts. Pour l'investisseur, mieux vaut éclairer les angles morts avant d'investir. C'est du bon sens. Et pourtant, on constate que les décisions ne sont pas forcément toujours prises en ayant une conscience complète de la réalité de la situation. Donc,
c'est juste, et revenir sur le RPA et le journalisme, souvent les modifications drastiques ont lieu après des traumatismes. On a une tribune d'un stade qui s'écroule avec des nouvelles normes, on se fait choper pour avoir corrompu je ne sais pas quel gouvernement, on va changer les choses, etc. C'est là où il y a une complémentarité, et c'est peut-être assez innovant entre le business, entreprise, que nous sommes, hein, une entreprise qui fait un chiffre d'affaires, et les activistes et les journalistes. C'est-à-dire que ces gens-là, les activistes, les journalistes, les ONG, tapent sur les mauvaises pratiques. Elles créent ces traumatismes. Et ça nous permet, nous, de faire changer les consciences en donnant des outils. Regardez Orpea, il y a un journaliste qui a bossé, regardez le scandale. Vous n'avez pas regardé avant. Les clients qui ne sont pas encore sujets à ces scandales-là, mais qui savent qu'ils ont des pratiques limites, potentiellement peuvent nous appeler pour qu'on les aide à changer de pratique. Et c'est là où il y a cette complémentarité, on n'est plus dans une opposition, et ça tu pourras en parler tout à l'heure Bertrand, mais sur ces interconnexions jusqu'à présent, on était dans un monde un peu old school, et dans notre secteur d'activité c'est vraiment flagrant. On a des grands capitaines d'industrie, des grosses boîtes qui décident, qui ont des moyens, qui ont des boîtes d'investigation, ils font tout et n'importe quoi. Et d'un autre côté, on a les opposants. On a les activistes, on a les ONG, on a des zadistes, on a... Donc il y a deux mondes qui s'affrontent. Chez Consort, on ne voit pas du tout les choses comme ça. Ces mondes-là, ils se complètent. Les gens qui défendent, qui sont dans des ZAD, ils ont des choses à dire. Et les gens contre qui ils manifestent, ils ont des choses à entendre. Et nous, on va essayer de rapprocher ces gens-là. Et c'est pareil, c'est pour ça qu'il y a des ONG dans ces locaux-là. C'est pour ça qu'on parle avec beaucoup de journalistes. Nous, on est très proche de plein de journalistes. Bien sûr, la confidentialité des missions qu'on nous donne, elle est garantie, vitale, et on ne parle pas de ces sujets-là, mais c'est des mondes qui doivent aujourd'hui se parler pour avancer ensemble vers des objectifs communs, parce que comme le disait Bertrand, on est tous sur la même terre. Donc l'idée, c'est d'arrêter le combat, mais plutôt d'agir ensemble.
Devenir société à mission, c'est une qualité qu'on a découvert chemin faisant sur notre chemin de transformation. On savait qu'on allait aboutir à une transformation, mais on ne savait pas à quelle transformation on allait aboutir.
Dans la deuxième partie de l'épisode, Fabien et Bertrand nous parlent plus spécifiquement de la manière dont ils sont passés entreprise à mission, leur motivation et comment ils ont fait.
Assez naturellement, en fait, je comprends de mieux en mieux pourquoi Consor est passé entreprise à mission, mais c'est vrai que c'est... Quand l'information est sortie sur Intelligence Online l'année dernière, c'était en fin juin 2021, je dois avouer que j'ai été un peu surpris, parce que c'est, on se dit pas, dans le renseignement d'affaires, l'entreprise à mission, c'est une évidence. Et pourtant, c'est vrai qu'à vous écouter, on comprend mieux le pourquoi du comment. Mais est-ce que vous pouvez quand même expliquer comment ça s'est fait, parce que c'est, on en parlait avant de commencer, c'est pas quelque chose qui était écrit dans le marbre de longue date, on veut devenir entreprise à mission.
Finalement, le fait de devenir entreprise à mission, c'est le produit d'un chemin qu'on a enclenché il y a maintenant 2 ans, de transformer l'entreprise de l'intérieur en mettant sur la table, non plus seulement les cerveaux rationnels d'une équipe, mais leur cœur et leur trip. On a décidé un jour qu'on allait permettre à chacun des collaborateurs de Consor Intelligence de mettre sur la table ce qu'ils avaient vraiment envie de faire, ici-bas, sur Terre, que travailler c'est une chose, mais que travailler c'est agir pour la société, et qu'on avait envie de comprendre qu'est-ce qui les faisait bouger, qu'est-ce qu'ils avaient envie de construire comme société, et on s'est plié à cet exercice, nous aussi évidemment, Fabien et moi, ça a commencé comme ça, avec un examen de conscience qui a été fait, et comme beaucoup, à la faveur du confinement qu'on a tous vécu, au printemps 2020, qui a été finalement un déclencheur salutaire, d'assumer un positionnement qu'on avait quelque part dans notre ADN non exprimé. Fabien et moi, on se connaît depuis qu'on a 15 ans. On était ados dans les mêmes rues, dans les mêmes milieux alternatifs. Et depuis cette époque-là, on est alignés par les mêmes valeurs et par les mêmes envies, et par les mêmes indignations dont tu parlais tout à l'heure. Cela dit, on ne détruit rien, on construit. On a appris à passer des milieux alternatifs destructeurs à des milieux de construction où on va prendre les choses telles qu'elles sont et amener petit à petit à construire autrement. Donc devenir société à mission, c'est une qualité qu'on a découvert chemin faisant sur notre chemin de transformation. On savait qu'on allait aboutir à une transformation, mais on ne savait pas à quelle transformation on allait aboutir quand on s'est mis en marche il y a 2 ans. On a construit ça de manière, dans un premier temps, individuelle. Entre nous, toute l'équipe s'est mise autour de la table, et puis petit à petit, on a aussi choisi de se faire accompagner par des gens dont les convictions étaient affirmées et qui avaient aussi cette expérience de la transformation d'entreprise de plus ou moins grande taille. Un spécialiste de l'impact investment, le dirigeant d'un bureau d'ingénierie écologique, un bureau d'études en ingénierie écologique, quelqu'un qui a opéré des transformations dans plusieurs grands groupes, sur la voie de la raison d'être. Ces gens ont vous permis d'atterrir, de donner une forme concrète et audible par le marché à nos intentions profondes. La société à mission s'est présentée sur notre chemin, naturellement, et on l'a saisie. On a également pris le parti de rejoindre la communauté, le mouvement Impact France, qui est une autre communauté qui complète bien celle de la communauté des entreprises à mission. De toute façon, c'est des communautés qui œuvrent toutes dans le même sens. Et on a rejoint, chemin faisant, finalement, des collectifs d'entreprises, d'entrepreneurs engagés, et qui poussent tous dans la même direction. Donc finalement, entreprise à mission, entreprise à impact, je vais dire, peu importe, on sait qu'on pousse tous dans la même direction. La loi a créé une qualité qui permet de porter une raison d'être et des intentions mesurables par des objectifs dont la loi... pacte et donc de faire porter cette qualité dans nos statuts. On a trouvé naturel de s'engager jusque-là. Certaines entreprises se donnent une raison d'être. Ça peut être perçu par certains, à tort ou à raison, comme du déclaratif, du greenwashing, du purpose washing. Je laisse leur conscience juge. le statut d'entreprise, enfin la qualité d'entreprise à mission offre justement le fait d'avoir la possibilité de se doter d'une raison d'être assortie d'objectifs à mesurer par un organisme tiers indépendant. Donc ça nous a paru une bonne façon de mettre en œuvre une solution alignée avec nos intentions et nos convictions, mais assortie d'outils de mesure. Parce que c'est bien de déclarer les choses, c'est bien aussi de les mesurer derrière et de rendre des comptes. Donc on s'est doté d'une qualité qui nous permet de nous forcer à rendre des comptes vis-à-vis de nos employés, vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos partenaires, vis-à-vis de la société.
Elle nous permet aussi de décider. C'est comme une boussole. On peut nous soumettre des sujets sur lesquels, auparavant, on aurait pu avoir du mal à arbitrer entre notre conscience et notre enjeu de faire du profit pour faire vivre notre boîte. Aujourd'hui, avec ces objectifs-là, les choses sont très claires. Et on ne prend plus de décision... J'ai envie de dire comment je pourrais dire ça. Ça nous facilite notre prise de décision. Quand un client vient nous voir avec un enjeu qu'on n'estime pas aligné avec nos objectifs, on lui dit non. Donc en fait, on peut dire aujourd'hui non à des demandes de mission qui collent pas avec nos objectifs. Donc il y a certains clients pour lesquels on ne travaille pas parce qu'on n'a pas détecté l'intentionnalité, parce qu'ils voudraient instrumentaliser notre travail à des fins qui ne nous conviennent pas. Et ce statut d'entreprise à mission... plutôt la rédaction de la raison d'être et des objectifs, nous aide à décider au quotidien. Et ça nous aide à décider sur nos missions, mais ça nous aide aussi dans la gestion de notre entreprise et de la relation qu'on a avec nos collaborateurs. Être entreprise à mission, ce n'est pas uniquement vers l'extérieur, c'est qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur. Aujourd'hui, notre équipe, elle est débordée. On a eu un point ce matin, à 8h30, avec nos managers qui nous disent « Ah, ils sont taqués, comment on va faire ?» Bah oui, on écoute, on entend, et le but, c'est que nos collaborateurs soient bien. Être entreprise à mission, c'est faire en sorte que quand ils se lèvent le matin, ils aient le sourire, et qu'ils aient envie de venir, et qu'ils arrivent ici dans une zone refuge. C'est le fait qu'on ait une entreprise jusqu'à présent, jusqu'à encore aujourd'hui majoritairement féminine. On est une entreprise jeune, c'est des jeunes qui sont là. On a une entreprise qui fait hyper attention aux conditions de travail. On est une entreprise souple, agile, et on est tout petit, mais en fait, ça donne une énorme force. Et être entreprise à mission, c'est à l'intérieur, à l'extérieur.
C'est à la fois une boussole et un fil à plomb. C'est les méthodes complémentaires. Le fil à plomb va nous
rentrer. On parle beaucoup de la boussole, rarement du fil à plomb.
Le fil à plomb, c'est une métaphore, mais c'est aussi ce qui nous permet un alignement et un ancrage, et qui nous ramène à la Terre, une fois de plus. Une chose est sûre, c'est qu'on est bien ancré sur Terre. On sait où on est et ce qu'on a à y faire. Et ce que nous a permis aussi ce chemin de transformation, et on l'a réalisé avec Fabien à un moment donné, c'est que jusqu'ici, jusqu'à ce moment où on a décidé de pivoter sur le fait d'assumer nos convictions et de transformer notre entreprise, et jusqu'avant, jusqu'alors, probablement qu'on n'assumait pas complètement ce qu'on était et qui on était, et que ça nous donnait un plafond de verre de croissance. On ne s'autorisait pas à grandir parce qu'on n'assumait pas complètement qui on était. À partir du moment où on a posé ce constat, on s'est dit, mais en fait, si on fait péter ce plafond de verre et si on sait qui on est, à quoi on sert, on n'a plus aucune barrière psychologique à grandir. Donc on a enclenché ce mouvement aussi. On est en train d'ouvrir un bureau à Lyon, on projette l'ouverture d'autres bureaux. Jusqu'ici, on n'imaginait même pas travailler à l'international, à l'étranger. Je dirais maintenant qu'on sait à quoi on sert. On sait qu'on peut servir partout. On peut servir demain en Allemagne, après-demain en Turquie. Notre rôle est clair, notre mission est claire. C'est presque une vocation à se diffuser de manière virale. On peut diffuser dans la société de manière constructive et positive, maintenant qu'on sait à quoi on sert. On n'a plus de plafond à grandir, et c'était important d'avoir fait péter ce plafond. Donc le fil à plomb, pour y revenir, c'est complémentaire à la boussole. Une mission nous donne un ancrage et nous donne aussi une direction. On sait où on va, on sait pourquoi on y va. Ça nous donne une énergie énorme pour embarquer tous ceux à qui on est lié, nos partenaires, nos clients, nos collaborateurs. Donc c'est finalement un catalyseur d'énergie pour transformer la société.
Ce changement d'état nous a amené une capacité que nous n'avions pas jusqu'à présent d'assumer. Et le fait d'assumer nous permet de prendre des risques calculés, mais des vrais risques.
Dans cette troisième partie, Bertrand et Fabien nous expliquent l'impact que passer société à mission a pu avoir sur le développement de l'entreprise d'un point de vue commercial, mais également d'un point de vue un peu plus écosystémique.
Ce qui est intéressant en vous écoutant tous les deux, c'est que il y a des termes. Alors, j'aime beaucoup parce que c'est exactement. Je pense que c'est à ça que sert justement l'entreprise à mission. C'est à participer à la transformation de l'entreprise. Il y a vraiment cette notion-là qui est très forte en fait. C'est de se dire, on était quelque chose avant, on avait des convictions, on portait des messages, mais qui n'étaient pas forcément structurés. Donc là, vous avez créé un tunnel dans lequel vous vous retrouvez bien. Et puis cette notion de renoncement. Que je trouve hyper intéressante aussi, parce que en fait, parfois on s'en rend pas compte, mais c'est vrai quand on a une mission, bah, ça permet de se dire ça je prends, ça je prends plus. C'est pas je prends pas parce qu'avant peut-être que je le prenais, mais ça je le prends plus. Et ça, comment ça s'est opéré ?
C'est assez naturel. J'ai envie de dire que je rebondis sur ce que disait Bertrand et sur ce que t'exposes Vivien. Il y a, en tant que dirigeant d'entreprise, il y a une notion de risque, c'est-à-dire qu'on affronte un quotidien risqué. On a des normes, on a des grosses charges salariales, c'est la vie de l'entreprise, c'est faire du profit pour faire face à des charges, générer ce profit de la richesse pour mieux la distribuer. Ça, c'est la façon dont nous, on voit l'entreprise, hein, générer de la richesse pour la redistribuer. Quand il y a eu le confinement, nous, on a décidé de mettre personne au chômage. On a gardé nos emplois. On a décidé de faire travailler nos collaborateurs sur ce qu'expliquait Bertrand tout à l'heure sur le modèle de société. Donc là, on sentait déjà qu'on était capable de prendre un risque. Parce qu'il fallait prendre ce risque pour dépasser l'état dans lequel on était. Aujourd'hui, renoncer à un client, c'est prendre un risque de business, c'est-à-dire un risque de trésorerie. Et ce n'est pas anodin. Par contre, ce risque, on l'assume. Quand les gens en version Covid ont été attentistes, ont mis des gens au chômage, nous, on a recruté une équipe. On n'avait pas encore rentré les nouvelles affaires qu'on a recruté des gens. Et on s'est dit, OK, on prend ce risque. On a besoin d'avoir une équipe pour pouvoir se lancer et sortir de cette crise à vide. On va avoir besoin de gens. Donc, en fait, cette transformation-là, elle nous permet de prendre plus de risques à tous les niveaux. Mais ce sont des risques payants. En fait, on s'en rend compte, c'est payant. Et on a une logique complètement différente des autres. Et on prend aussi un risque dans notre secteur d'activité, un risque qu'on assume, c'est de faire part de notre indignation. De pas être en costard cravate en posant devant des tours en mer, d'être relié à la terre, de ramener notre activité d'intelligence économique nébuleuse dans une transparence. Ce qu'on fait, c'est pas caché, c'est audible, c'est public, on peut expliquer et ça peut servir à tout le monde. On n'est pas une boîte réservée aux grands capitaines d'industrie. Donc ce changement là, ce changement d'état, nous a amené une capacité que nous n'avions pas jusqu'à présent. D'assumer, et le fait d'assumer nous permet de prendre des risques calculés, mais des vrais risques.
Et justement, c'est intéressant ce que tu disais là sur le côté d'assumer aussi vis-à-vis de dans notre secteur d'activité, parce que bon, vous êtes les seuls pour le moment, à ma connaissance, à moins qu'il y en ait un qui l'ait fait, mais je
crois pas. On est toujours les seuls.
Mais je crois effectivement. Comment ça a été perçu ?
C'est un alignement cohérent entre une éthique individuelle, pour ceux qui nous connaissent, et un développement de l'activité commerciale. Donc, je pense qu'il y a plusieurs façons de le voir. Il y a ceux qui nous connaissent, qui ont perçu ça comme quelque chose d'extrêmement cohérent, naturel. Et il y a ceux qui sont sur notre marché. Les autres acteurs de la science économique, je vais être honnête, il y en a certains à qui j'ai expliqué, ils n'ont rien compris. Ils m'ont regardé avec des grands yeux. Ils m'ont pris pour un fou, ils se sont inquiétés, ils ont pas compris en fait de quoi tu parles, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça. Mais ça s'accrochait à rien dans leur tête en fait. Il n'y avait aucun ancrage, ça résonnait avec rien. Ils sont encore sur des modèles de l'entreprise qui est là pour faire du profit, les modèles économiques du 19e, 20e siècle. L'entreprise est là pour faire du profit. Tout ce que nous allons faire, nous, c'est d'outiller les entreprises pour leur permettre de faire plus de profit. C'est des outils. On a refusé le statut d'outil. On reprend la main sur l'outil. Oui, on est un outil. Mais on sert à quelque chose. Un outil sert à quelque chose et on reprend la main sur ce à quoi on sert. On reste un outil au service d'entreprise, mais pas que. Est-ce que tu disais, Fabien, sur le rapport au risque, il y a aussi un rapport au temps long. On sait qu'on peut prendre des risques aujourd'hui parce qu'on se projette. La mission permet de se projeter. La mission donne un sens et une direction. On sait où on va. Donc, on n'est pas dans l'immédiat, dans le présent tout de suite. La mission permet de nous projeter dans un temps long, d'embarquer tout le monde dans cette direction, et pour y aller, il faut de la confiance. La mission nous donne confiance dans le cap et dans la direction, et je pense qu'à partir du moment où on a confiance en soi, dans la cohérence de ses choix, on va construire la réalité dont on a envie. Et on partage ça avec Fabien, le fait d'être convaincu qu'on va pouvoir contribuer à construire la réalité dont on a envie. C'est ce qu'on appelle aussi, certains appellent ça, c'est une façon de parler de l'utopie. L'utopie est ce qui n'est pas encore réalisé. C'est pas quelque chose d'éloigné, d'inatteignable, et on renonce pas à l'utopie. On n'y renonce pas, et on considère que, pas à pas, chemin faisant, on va y arriver, mais il faut être patient. Et il y a certains clients avec lesquels on est très patient. On prend le temps. Il y a des missions qui nous déplaisent un peu au départ, mais on sait qu'on va les amener où on veut les amener en 2 ans. Ça prend parfois 1 ou 2 ans pour petit à petit faire pivoter les consciences dans la bonne direction, ouvrir les yeux, permettre à nos clients de s'ouvrir à nouveau vers des acteurs avec lesquels ils étaient complètement en opposition. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et c'est vrai que c'est des missions qu'on a acceptées, qui étaient plutôt, au départ, de type « il y a des ONG qui nous font chier, aidez-nous à les déstabiliser », modèle classique, hein, « aidez-nous à leur faire taire, à leur faire fermer leur gueule », excusez-moi des propos, c'est un peu ça. On prend la mission, ok, on va cartographier ces acteurs autour de vous, et chemin faisant, on leur fait comprendre que non seulement ce ne sont pas des idiots, et en plus ils ont des choses à se dire, et que la tranchée qui existe, c'est notre client qui l'a construit et qui l'a nourri, mais qu'en face, ils sont vraiment disposés à venir parler avec eux et à construire des choses. Et au final, 2 ans après, c'est des clients qui ont basculé complètement dans une logique où ils ont construit un écosystème d'impact avec ces acteurs avec lesquels, au départ, ils étaient en opposition farouche. Donc ça a pris 2 ans. Mais on a la patience et le temps avec nous parce qu'on sait où on va.
Et moi, je vais rajouter pour rebondir aussi ce que tu disais sur notre secteur d'activité. Bertrand illustre bien là... et c'est un corollaire du risque qu'on prend, la créativité. En fait, on invente. Notre secteur d'activité n'invente rien. On fait de la compliance, on répond à Sapin 2. Pour certains, ils mélangent les genres parce qu'ils font à la fois de la due deal, à la fois de l'intermédiation, de la cyber, de la sécurité physique. Nous, on ne fait rien de tout ça, on ne fait que de l'investigation. Mais ce qu'explique Bertrand, c'est cette logique de créativité. On invente. Et certains, nos collaborateurs, arrivent parfois avec des missions. Comment on va faire ? Inventer quelque chose, et on invente avec nos clients. Et là-dessus, je voudrais rebondir, et c'est peut-être aussi ce qui nous différencie pas mal d'autres acteurs de notre secteur. Quand on parle à un client, on répond toujours à plusieurs enjeux. Il y a forcément l'enjeu général de l'entreprise. L'entreprise doit se développer dans tel pays, créer une JV pour pénétrer tel marché. Ça, c'est son enjeu. Mais la personne qui va nous solliciter, imaginons que dans un cas pareil, une directrice juridique, elle a son enjeu à elle. Elle a la pression qu'on va lui mettre. Elle a son reporting à faire en interne. Et en fait, chez Consort, on parle à des êtres humains. On n'est pas en train de parler à une énorme boîte, comme le disait Bertrand, pour les amener à faire du profit. On va les accompagner dans la réalisation de leurs objectifs, mais en prenant en compte la totalité de l'environnement et en parlant à l'être humain qu'on a en face de nous, qui lui aussi a des enfants, qui lui aussi voit le monde bouger, qui lui aussi s'indigne. Et c'est cette force-là qu'on a chez Consort, on est créatif et on est la relation client chez nous, elle est pas c'est pas un objet marketing, c'est quelque chose qui traduit l'intentionnalité et l'implication qu'a toute l'équipe de Consort Intelligence au service d'une mission, au service d'un client, d'un grand enjeu et d'un enjeu plus humain, plus personnel, de la personne qu'on a en face. Donc nous on tient nos clients au courant tout le temps, on veut pas les mettre en stress souvent, et ça m'est encore arrivé hier. Un client nous appelle, ils nous livrent leurs problèmes, et au téléphone, on sent qu'il y a une espèce de charge de stress qui se libère. Comme si en nous donnant ça, tout d'un coup, sur ce sujet-là, qu'on sort dessus, c'est bon, on va pouvoir souffler, ils parlent avec nous, et on sent que le ton se calme, la personne aussi s'apaise, parce qu'on on la rassure en disant qu'on va sans doute pouvoir travailler, qu'on va revenir vers elle, qu'on a bien entendu. Et ça, c'est super fort chez Consort, en fait. Il y a un truc super humain. Voilà, donc c'est tout un ensemble de valeurs qu'on partage tous dans l'équipe, qui se traduisent au quotidien dans les missions qu'on accepte, dans la façon dont on les conduit, dans la relation qu'on a avec nos partenaires et avec nos clients et avec les hommes autour de nous, les femmes autour de nous.
Est-ce que au niveau, parce que là on a pas mal parlé des clients, justement, est-ce que vous avez l'impression que aujourd'hui il y a des clients qui viennent à vous parce que vous avez un positionnement un peu différent?
Alors, il y a des clients qui... Alors, oui, j'ai envie de dire oui, et c'est qu'en début. Parce qu'il faut quand même voir que ce positionnement-là, il a 6 mois. Et qu'en 6 mois, on a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a transformé l'essai. Hein. Fallait tester, hein. C'était un pari, un risque, on ne savait pas, est-ce que ça va marcher. En plus, on n'est pas des experts de l'ESG, nous, on n'est pas des spécialistes de l'impact environnemental, on est des enquêteurs, on est des analystes, donc on n'a pas cette compétence-là. Mais en fait, fort de constater aujourd'hui qu'avec certains clients, on a un système de valeurs humain, c'est-à-dire qu'on va parler avec un patron de fonds, fonds d'investissement, et on a un bon exemple, hein, malheureusement, je ne peux pas trop en dire là, mais où en fait, basé sur le fait qu'on a les mêmes valeurs, il nous confie une mission qui n'a jamais été faite, mettre en place un système d'investissement responsable. Changer ses process d'investissement, toute sa chaîne de décision, en nous faisant intervenir pour diagnostiquer et designer un nouveau système. Mais ça, c'est, on n'avait jamais fait ça. Et il savait très bien qu'on n'avait jamais fait ça. Il nous l'a confié uniquement parce qu'on avait fait d'autres missions pour lui avant en investigation qui leur a évité de prendre des risques, on les a sortis de crises un peu complexes. Donc il y avait cette confiance sur la compétence et il y avait ce système de valeurs. Et ça nous a permis de rentrer chez eux et de créer quelque chose d'extrêmement fort, humainement parlant, sachant que ce fonds-là a la conscience du fait qu'il est un acteur de la transformation puisque c'est lui qui a l'argent. Et à partir du moment où il a l'argent, il peut se servir de son argent pour avoir un effet de levier dans les boîtes dans lesquelles il va investir. Et donc, demander des comptes à ces sociétés-là, dire « Ok, vous allez baisser votre bilan carbone, vous allez faire un effort sur la parité, vous allez faire etc. etc. » Et en leur donnant des outils. Donc, on est dans le fait d'avoir ce changement-là. Effectivement, les clients viennent à nous par un système de valeurs. On en parlera sans doute après sur la modification d'écosystèmes autour de consorts aussi, qui est un vrai corollaire de ce changement-là. Mais j'ai envie de dire, c'est pas suffisant. Donc, merci Vivien.
Au niveau des nouvelles offres ou nouveaux partenaires.
En métro, hein, on est en train de retravailler parce qu'on sort du bois notre communication. Intelligence Online a parlé de nous pour la première fois en 10 ans d'existence en des termes. On va les remercier parce que c'est chouette ce qu'ils ont écrit sur nous parce que c'est vrai. Voilà, ils nous disent qu'on redorait le blason de l'IE. Oui, on a envie de montrer que nous, on est des gens bien et que l'investigation et l'intelligence économique, même si c'est un terme qu'on n'aime pas du tout, mais c'est une réalité, peut être quelque chose de très positif et de très sain. Donc, on appelle tous les gens qui écouteront ce podcast à nous appeler, à discuter, à voir comment on pourrait les aider et comment aussi, eux, ils nous nourrissent. Hein, parce que ça ne va pas que dans un sens. Quand un client vient nous voir, il nous nourrit. C'est mutuel. On est toujours dans cette interconnexion. Hein. Ce que ne font pas forcément les boîtes historiques du secteur. Ils reçoivent une expression de besoin dans un domaine qu'ils connaissent, ils vont remplir la mission, et ainsi de suite. Ben nous, on aime bien aller plus loin. Comme tu le dis, Bertrand, tu utilises l'employé, tu utilises la formule de relations épaisses. Mmh. C'est forger des relations épaisses, c'est-à-dire parfois avec les clients, c'est aller boire un coup le soir, parler de tas d'autres choses, et puis si on ne fait pas de business avec lui, on ne fera pas de business avec lui, ce n'est pas grave, mais on a tissé quelque chose de plus profond, et le jour où il aura besoin de nous, ben, il saura où nous trouver, et puis le jour où nous on a besoin de lui, ben, on sait où le trouver, et ça marche comme ça.
Et en complément, alors c'est vrai que le fait d'avoir changé ce positionnement, de l'avoir assumé, créer un champ pour de nouvelles missions, pour les mêmes interlocuteurs, ils se disent « Ah tiens, je peux investiguer d'autres territoires avec eux ». Ils ne savaient pas trop où les mettre, ils ne savaient pas trop quoi en faire, ils ne savaient pas trop comment réaliser ses rêves les plus secrets, en fait, de se dire « Tiens, je peux avoir en plus de mon business une activité et un impact positif ». Donc on crée ce champ avec ces mêmes interlocuteurs qu'on avait jusqu'ici sur d'autres domaines, on va dire. Et puis ce qui est aussi à noter, c'est qu'il y a aussi des missions qu'on va susciter nous-mêmes d'intention, d'initiative, en repérant que quelque part quelque chose ne se passe pas très bien et que ça serait bon qu'on puisse aller apporter un coup de projecteur, un coup d'éclairage par le fait de nos investigations pour mieux comprendre quelque chose qui ne se passe pas très bien quelque part, d'initiative. Et donc, pas forcément attendre que les clients viennent vers nous, mais se saisir de sujet et aller proposer à certains acteurs économiques importants de faire un bout de chemin avec eux et de les aider à avancer sur une situation qui est parfois embourbée et pour finalement contribuer à parfois renouer un dialogue, parfois reconstruire une relation qui était tendue. Et ça, c'est la nouveauté, c'est assez récent, le fait d'aller proposer des sujets d'initiative, de les identifier et de les porter. Et du coup, de les incarner, de les vivre de manière beaucoup plus intense parce qu'on les a pensés et vus et identifiés nous-mêmes.
préparant cet entretien, j'ai vu notamment, par exemple, que vous travaillez désormais sur les achats responsables, mmh. et en particulier avec une entreprise, donc mmh. Buy Your Way. Et là, on sent qu'il y a création d'un nouvel écosystème, vous allez vers de nouveaux partenaires. Est-ce que c'était volontaire? Comment ça s'est fait? Est-ce que c'est lié à la mission, à votre positionnement?
Tout est lié, en fait. On rentre dans un cercle hyper vertueux de gens qui partagent les mêmes valeurs que nous. Et Buyer Way, c'est très chouette que tu les cites. Hein. On a beaucoup de choses à faire avec eux. C'est une boîte qui nous ressemble. Hein. On est le même nombre. On s'entend très, très bien avec Fanny qui dirige cette structure. Ils ont la même vocation et le même but que nous. L'idée, c'est de travailler à leur côté. Parce que nous sommes un outil de plus d'investigation qui va au-delà de l'audit, du déclaratif, des bases de données au CoVadis, ce genre de choses. Nous, on est capable de travailler en profondeur sur des cartographies de risques de fournisseurs. On est capable d'aller vérifier dans les usines ce qui se passe pour de vrai une fois que les auditeurs sont partis et qu'ils n'ont rien relevé de spécifique. Donc en fait, l'idée, c'est de développer avec Buy Your Way leur proposition de valeur et de travailler ensemble. Parce que c'est aussi une chose qui est différente, c'est que avec cette approche, on n'est pas en compétition, on est en coopétition. C'est-à-dire qu'on a tous des compétences différentes, mais vu qu'on va vers le même but, on peut travailler ensemble. Et cet écosystème, le fait de tout est lié dans le sens où le fait d'être entreprise à mission, de le dire, d'aujourd'hui d'être connu, de développer une notoriété là-dessus, ça nous a permis de tisser des liens géniaux avec la communauté des entreprises à mission. C'est des gens qui sont super animés. Ça nous permet de tisser des liens avec Impact France. En fait, c'est tout cet écosystème qui est immense, parce qu'il est rempli de bon sens, juste de bon sens. Hein. C'est pas des militants débiles, hein, c'est du bon sens. Et ça nous a permis de faire pleinement partie de cet écosystème-là. Et encore une fois, la différence de l'intelligence économique d'avant, qui était remplie d'anciens préfets, d'anciens généraux, d'anciens politiques, et qui naviguaient dans les hautes sphères des entreprises. Nous, on n'est pas du tout là. Nous, on est dans la terre, quoi. On est avec les gens qui font. Et les gens qui font, ils sont dans les entreprises aussi. Donc tout ça est extrêmement vertueux, extrêmement riche, extrêmement nourrissant. Ça nous ouvre les yeux, l'esprit, nous donne des contacts nouveaux et il y a une dynamique incroyable et qui permet de garder l'espoir et de rester enthousiaste malgré tout ce qu'on peut voir qui pourrait nous faire un peu courber les chines et nous rendre un peu tristes. C'est le fait d'être chez Consort et d'avoir cette vie-là qui est intellectuellement extrêmement riche, humainement extrêmement riche. Ça nous permet de continuer à garder l'espoir.
Cet alignement entre le citoyen, acteur de la société qu'on est, et l'acteur économique, dirigeant d'entreprise qu'on est, pour moi, c'est pas de différence. Simplement, on a fait tout un travail qui nous a permis de faire en sorte qu'il n'y ait pas de différence. Et que ce qu'on est se matérialise dans ce qu'on fait. C'est aligner ses intentions et sa pensée avec ses actes.
Dans la dernière partie de cet épisode, Fabien et Bertrand nous donnent quelques conseils et quelques points de vue plus personnels.
Si on sort un petit peu de l'entreprise et que là j'interroge les deux casquettes que vous avez tous les deux, c'est-à-dire casquette de citoyen et casquette de chef d'entreprise, je sens un alignement profond entre les deux. Mais comment est-ce que vous arrivez justement au quotidien à ne pas faire cette distinction entre je suis un citoyen, j'ai des convictions fortes, je suis chef d'entreprise, je peux avoir des convictions fortes, mais j'ai aussi l'intérêt financier de l'entreprise à mettre en avant par rapport au reste éventuellement. Comment vous arrivez à créer cet alignement? Peut-être Bertrand, c'est une bonne occasion aussi pour que tu t'expliques ton ouvrage, parce qu'il est tout frais et puis il est engagé.
Alors, on ne crée pas cet alignement, il existe de fait. Il n'y a pas besoin de le créer, il existe de fait. Cet alignement entre le citoyen, acteur de la société qu'on est, et l'acteur économique, dirigeant d'entreprise qu'on est, pour moi, c'est pas de différence. Simplement, on a fait tout un travail qui nous a permis de faire en sorte qu'il n'y ait pas de différence. Et que ce qu'on est se matérialise dans ce qu'on fait. C'est aligner ses intentions et sa pensée avec ses actes. Puisqu'on le sait, on n'est pas jugé sur ce qu'on dit, mais sur ce qu'on fait. Donc, on n'a qu'une vie en plus. Donc, si on a quelque chose à faire dans cette vie, il faut le faire maintenant. Il ne faut pas attendre plus tard. Et puis aussi, on m'a appris, je pense, dans notre écosystème, on a la chance d'avoir des gens très bienveillants, des partenaires dans notre bureau qui ont aussi une clairvoyance et qui nous voient vivre, qui nous observent et qui voient nos engagements multiples dans différents univers. Et ils nous aident aussi à recentrer tout ça en un seul et même faisceau d'énergie et d'intervention. à quoi bon se disperser alors qu'on peut tout faire dans une seule et même activité, dans une seule et même vie. Donc, je pense qu'il y a un travail important pour chacun de réconcilier ce qu'il est profondément en lui et de ce qu'il va faire au quotidien dans son activité professionnelle. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc, quand tu demandes qu'est-ce qu'on doit faire finalement pour réussir à réaligner les deux, je pense que le fait d'avoir fait les choix du cœur et des tripes, hein, c'est ce qu'on dit souvent, hein, on nous a posé la question, l'entreprise à mission, c'est quoi ? C'est aussi mettre sur la table son cœur et ses tripes, et pas uniquement son cerveau rationnel qui calcule et qui a peur. C'est aussi affronter l'inconnu, affronter le risque, c'est l'embrasser plutôt que son défi. Et c'est vrai que le livre dont tu parles, que je viens d'écrire, ne parle que de ça. C'est comment, en tant qu'habitant de la Terre, on peut réapprendre à renouer avec la précarité, renouer avec la peur, renouer avec l'inconnu, ce qu'on a finalement de toute notre histoire d'être humain sur Terre, qu'on a eu de cesse que de réduire l'incertitude, réduire l'inconfort. Depuis qu'on est humain sur Terre, on ne fait que ça, réduire notre incertitude, réduire notre inconfort, et chemin faisant, prendre nos distances avec la Terre. On a installé un toit au-dessus de notre tête, on a mis un plancher au-dessus de nos pieds, on a mis des murs autour de nous, on a coupé tous les liens qui nous relient à la Terre. On met des objets entre nous et le moindre des besoins. Accepter de revenir les deux pieds sur Terre en tant qu'être humain, que terrestre, comme dirait à nouveau Bruno Latour, c'est ce dont parle ce bouquin, et c'est finalement une invitation à réhabiter la Terre de manière très simple. La façon dont peut-être nos très 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 lointains ancêtres l'habitaient, et avec une façon d'habiter la Terre dans un mode de connaissance très archaïque, qu'on a complètement oublié, qu'on a mis de côté malheureusement, et qui fait que nous sommes complètement incapables aujourd'hui de réagir à cette crise écologique qu'on traverse tous. C'est les défis climatiques, les défis liés à la perte de biodiversité, on les voit de loin, on ne les entend que très peu, et ils nous affectent très peu. Il y a quand même tout de même des populations qui sont directement affectées par ces problèmes et ces atteintes à l'environnement, et ces catastrophes écologiques. Mais globalement, je veux dire, le citoyen occidental moyen, il voit ça de loin, il a appris à vivre ça de très très loin. Le système économique fait que je peux m'affranchir de mon lien direct avec les choses que j'achète, puisque de toute façon j'ai de l'argent. Que entre ce morceau de terre que je m'achète dans ce jean que j'enfile, qui est un morceau de coton quand même, il y a toute une chaîne d'intermédiaires qui fait que je déréalise complètement ce dont quoi je dépends. Ce livre est une invitation à refaire lien avec la Terre de manière extrêmement simple. Chemin faisant, et ce livre m'a permis ça, enfin l'écriture de ce livre qui est finalement l'aboutissement d'une expérience qui a une quinzaine d'années, toutes ces expériences m'ont permis de me réaligner avec moi-même, avec la Terre et avec les autres. Et retisser ce lien, c'est ce qu'on peut souhaiter et qu'on soit à vocation aussi, à permettre aux acteurs habitant la Terre de se relier. Consort intelligence, je peux m'arrêter là-dessus, on le redit, c'est ce dont le destin est lié, enfin, on ne peut pas dire autre chose, on habite tous la même Terre. Jusqu'à preuve du contraire, on a tous les deux pieds sur Terre, et on est tous liés par un fil invisible qui nous relie tous, c'est cette gravité qui nous fait tenir sur Terre.
Ça me paraît un bon mot de la fin pour cet épisode. Alors, traditionnellement, dans les missives de la newsletter, je termine toujours par un petit coup de cœur musical. Je ne sais pas qui de vous deux veut commencer pour partager son coup de cœur musical et expliquer un petit peu pourquoi. Peut-être Fabien ?
Ouais. C'est bien que tu nous aies un peu prévenu avant, quand même, parce que c'est sans doute le truc le plus compliqué du podcast, en fait. Moi, je suis un dingue de son. Beaucoup de musique dans des styles bien différents. Et hier soir, très tard, je me disais, j'ai pas choisi ce que j'allais dire à Vivien. Donc finalement, j'ai choisi un titre de Ben Harper qui s'appelle With Your Own Hands. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tout à l'heure, c'est exactement ce que tu as dit, Bertrand. Tout à l'heure, tu as parlé dans mes mains. Tu as parlé, on a tout dans nos mains. Et ce titre, il le dit. Et ce qui est chouette aussi avec ce titre-là, c'est que déjà, c'est un fond de reggae. Moi j'adore, c'est lumineux, ça apporte de la couleur, de la lumière, même si c'est souvent des cris de révolte. Ce morceau-là est très positif et il date du début des années 2000, je crois. c'est là où c'est peut-être un peu plus triste, hein, c'est que, je veux dire, qu'est-ce qui a changé ? Il y a tellement d'artistes, depuis même Renaud dans les années 70, on parlait des désordres environnementaux. Mais en tout cas, voilà, c'est pour terminer un podcast sur l'émission avec une dose de positivisme, de lumière. Je trouve que ce titre est, en tout cas pour moi, est pas mal. Voilà.
Et pour toi, Bertrand ?
C'est un choix trop difficile pour moi que de. En fait, je vais t'expliquer quelque chose de très simple, Vivien. J'ai des coups de cœur et des goûts musicaux qui, en général, ont une durée de vie de 5 secondes avec mes amis. C'est-à-dire que c'est pas compatible avec le grand public, je suis désolé. Mais je suis plutôt attiré par ce qu'on peut appeler une musique expérimentale, parfois un petit peu dérangeante. Et faire un choix là d'une musique qui me ferait vibrer moi, ferait partir tout le monde.
Donc, je l'atteste.
Parfait, bah en tout cas, c'est parfait. En plus, ce morceau de Ben Harper est vraiment très très bien. J'aime ouais. beaucoup. Un grand merci à vous deux pour cet échange. C'est extrêmement riche. Et je pense que ça permet d'avoir une vision engagée, presque militante un petit peu, quand même, de ce que c'est que de devenir entreprise à mission dans un secteur où, a priori, c'est pas prédestiné. Et porter toutes ces convictions au quotidien et de manière interdépendante.
À très bientôt, merci.
Merci bien.
Merci à toutes et à tous de votre écoute. J'espère que ce premier épisode de La Machine à Sens vous aura plu. Si c'est le cas, j'ai une petite faveur à vous demander, c'est de me donner quelques étoiles, ça monte jusqu'à 5, sur Apple Podcast ou sur Spotify. Alors bizarrement, sur Spotify, ça ne marche que sur smartphone. C'est vraiment important pour améliorer le référencement du podcast et que d'autres le découvrent, surtout quand on commence. Évidemment, pour ne rien rater des prochains épisodes, le mieux c'est de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Si vous avez envie d'échanger sur le sujet des entreprises à mission, vous pouvez bien évidemment me retrouver sur la newsletter de la Machine à Sens, machineasens.substack.com, ou sur LinkedIn. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode.